Écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Florence Aubenas.
Bonjour Patrick.
Grand reporter au journal Le Monde, vous publiez L'inconnu de la Poste aux éditions de l'Olivier sur une histoire qui vous a occupé pendant 6 ans, qui est à la fois un meurtre atroce, une énigme criminelle, une disparition mystérieuse, le portrait d'un espoir et d'un marginal du cinéma et celui d'un morceau de France oublié et déclassé. Je n'oublie aucune dimension du livre, il y a tout ça à la fois.
Il y a tout ça à la fois, c'est vrai.
Nous sommes dans l'Ain, une commune de 3500 habitants au bord du lac de Nantua, où le monde paysan a laissé sa place à l'industrie du plastique. Catherine Burgot, qui tient un petit bureau de poste en centre-ville, est tuée de 28 coups de couteau dans son arrière-boutique à l'heure de l'ouverture, en plein jour, en pleine affluence. Elle avait 3000 euros en caisse. Premier accusé. Un acteur, Gérald Thomassin, révélé par Jacques Doyon dans Le Petit Criminel. Il vit en marginal, presque en face du bureau de poste. Thomassin, incarcéré ensuite pendant 2 ans et qui disparaît au moment où il va être innocenté. Vous racontez 100 histoires dans ce livre extraordinaire, Florence Aubenas. La plus fascinante et la plus obsédante, c'est celle de Thomassin.
Peut-être, mais c'est loin d'être la seule. Et c'est vrai qu'au début, et c'est ça qui était incroyable et qui m'a tenue en haleine sur ce livre, c'est le fait que quand un mystère semblait se résoudre, eh bien un autre apparaissait. Donc le premier mystère était ce meurtre dans un village. Alors, vous l'avez dit, Montréal-Lacluse est un tout petit village dans l'Ain. Et ce meurtre a lieu à 8h30 du matin. Donc les enfants vont à l'école, les parents vont travailler. Ce sont des rues très étroites, tout le monde se connaît.
Il y a la maternelle à côté.
Voilà, il y a la maternelle à côté, la mairie à peine plus loin, le bar. Enfin, c'est vraiment la vie de village, la vie familiale. Et ce bureau de poste est très petit et il y a une seule entrée. Donc la personne qui a assassiné Catherine Burgot est forcément entrée et sortie par là, au plein milieu de la place du village.
Et a tout laissé en place.
Il n'y a absolument
aucune trace de désordre.
Et donc tous ces gens qui sont passés devant le bureau de poste disent « Mais comment on n'a rien vu? Comment se fait-il ?» Et donc par rapport, ça semble le mystère de la chambre jaune, mais c'est la petite poste de Montréal.
Et le village est traumatisé. Joe-Maire vous dit « C'est notre 11 septembre à nous ».
C'est exactement ça. C'est ce qu'il dit, c'est notre 11 septembre à nous. Et pour savoir qu'il y avait là une petite poste, sans service de sécurité, avec une seule entrée, et une postière seule, travaillant seule, on s'est dit, tous les habitants se disent, c'est forcément l'un d'entre nous. Et tout le monde se regarde dans ce village en se disant, qui c'est ?
Le type de l'autre côté de la rue.
Alors, de l'autre côté de la rue.
Qui vit dans la grotte. C'est le surnom de son appartement. C'est un appartement en
souplex.
En souplex, voilà, cherchez le mot.
C'est ce que disent les agents immobiliers. Je sais que vous êtes un peu dans le métier.
Non, pas du tout. Souplex. Voilà, donc la grotte. Et dans la grotte,
il vit là depuis 1 an. Donc, il vient d'arriver. Ça reste un étranger au village. D'autant plus étranger qu'il est acteur. Mais il est aussi très marginal et son comportement est marginal. C'est-à-dire que Thomassin, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse oublier. C'est-à-dire que quand il a une canette et qu'il la boit, il se met en plein milieu du village avec ses 2 copains, ouais. Il met la musique à fond et on ne voit que lui. Ouais. Donc évidemment, dans l'Ain, dans une région très travailleuse, empreinte encore un peu de l'agriculture, c'est sûr que les gens, ça les choque.
Et il est souvent bavard en plus. Il parle de lui, il raconte ses films, il est intarissable sur ses rencontres de plateau.
Effectivement, il n'est pas acteur pour rien. Donc, quand il rencontre des dames au cimetière, sur la tombe de Catherine Burgot, qui vient juste d'être enterrée, il pense utile de leur immédiatement mimer comment le meurtre a pu avoir lieu, parce qu'il l'a vu dans un film, alors il connaît bien ça. Et donc, il fait tout pour se faire remarquer.
Ce qui attire les premiers soupçons, effectivement, ces deux dames dans le cimetière, témoigne assez vite. Enfant de la DAS, on l'a dit, repéré par Doyon quand il avait 16 ans et qui passe de la rue au plateau, des Césars à la bière, de l'alcool à la drogue, des shoots au shooting. Toujours fauché, il a vendu sa statuette des Césars, puisqu'il a été sacré meilleur espoir pour 6800 francs. C'est quelqu'un du cinéma au début, Florence Aubenas, qui vous alerte sur cette histoire.
C'est ça, je suis de permanence au Monde, je travaille au quotidien Le Monde, et donc quelqu'un appelle en disant, moi j'ai un copain acteur, une femme directrice de casting, qui est accusée d'un meurtre à Montréal-Lacluse, et alors elle en est sûre, elle ne sait pas pourquoi, vous savez, parfois on a comme ça ses intuitions, je suis sûre que c'est pas lui. Et moi, je n'en sais absolument rien. Et bien sûr, j'arrive à Montréal pour voir ce qui s'est passé. Et c'est là que je découvre tout ce village, cette atmosphère-là. Et la chose qui est très particulière et qu'on comprend très vite quand on parle de Thomassin, il est à l'époque emprisonné, donc je ne le rencontre pas tout de suite, c'est qu'il a, vous avez bien montré les deux faces de sa personnalité, hein, à la fois un enfant de l'ADAS, très marginal, et à la fois un acteur, mais il est pleinement les deux. C'est-à-dire qu'il a vraiment gardé son pied sur le tapis rouge et son pied dans le caniveau. Mmh. C'est ça qui fait sa particularité.
Dans la presse nationale, on parle d'ailleurs à propos de ce meurtre de l'affaire Thomassin. Enfin, c'est comme ça que c'est présenté.
C'est vrai.
Et on peut se dire que si Thomassin n'avait pas eu quelques personnes, dont celle qui vous a contacté, hein, qui l'aimait beaucoup à Paris, il n'y aurait pas eu de retentissement, il n'y aurait pas eu d'enquête journalistique, ou la vôtre en tout cas, sur ce qui est au départ une erreur. Policière ou judiciaire, en tout cas. En tout cas, il est incarcéré sans preuve formelle.
Voilà, c'est-à-dire que dans cette poste, et c'est un autre élément à savoir, une personne qui y est rentrée a laissé son ADN et des preuves techniques scientifiques, comme on dit maintenant. Alors vous savez, maintenant, c'est vrai que dans les faits divers, ces grands sorciers des laboratoires en tunique blanche, etc., sont ceux qui, d'une certaine manière, aident à résoudre un certain nombre d'énigmes, y compris des années après. Et donc, une personne qui est rentrée dans cette poste, en tout cas, a laissé son empreinte, une main sanglante, sur un tiroir dans lequel il y avait de l'argent. Et donc, sur cette main sanglante, c'est le sang de la victime et l'ADN, en tout cas, de celui qui a ouvert ce tiroir pour prendre l'argent. Et cet ADN ne matche pas avec celui de Thomassin, donc ce n'est pas celui de Thomassin. Mais néanmoins, les enquêteurs se disent, bon, ils sont peut-être plusieurs, ils doivent être plusieurs toxicomanes, il se trouve d'ailleurs qu'ils zonent un peu dans le village avec d'autres personnes, donc on se dit, ben voilà, c'est une petite équipe, et lui a été assez malin pour ne pas laisser son ADN. Et donc on se dit, bon, ben il y est au moins pour quelque chose. Et c'est ça la phrase qui tourne en boucle autour de lui, c'est si ce n'est lui, en tout cas il sait quelque chose, il y était, il a dû guetter, il a dû faire quelque chose. Et donc, il est, vous l'avez dit, incarcéré plus de 2 ans. Hein.
Voilà, alors tout ça nous intrigue énormément, mais il faut dire aux auditeurs que votre livre L'Inconnu de la Poste est bien plus et bien mieux, si je puis dire, simplement qu'une enquête policière. Je disais, il y a 100 personnages dans votre livre et il faudrait tous en parler. Les deux compagnons de
Tintin et Rambouille.
D'héroïne Tintin et Rambouille, les Dalton, voilà. Il y a des personnages qui n'ont pas de nom d'ailleurs, c'est assez drôle comme vous les avez surnommés. Le nouveau, pour le nouveau mec de Catherine Burgot, le futur ex, pour celui avec le qui va divorcer. Il y a les filles de la poste, c'est très attachant ce que vous décrivez aussi de ce rituel de copinage au moment du café. Et puis le père de la victime, très important, Raymond Burgot, qui est un ancien secrétaire de mairie, qui est quelqu'un qui a un notable, et qui se bat de toutes ses forces pour trouver le meurtrier de sa fille et qui croit, lui, beaucoup en la culpabilité de Thomassin pendant longtemps.
Et c'est vrai que ces deux hommes, l'un en face de l'autre, il y avait quelque chose qui moi, m'a soufflé, pour dire les choses comme ça. C'est-à-dire que Raymond Burgot, au départ, c'est un veuf, il élève seul sa fille, et c'est un notable du village. Et donc, sa fille est tout ce qui lui reste, et il y a entre eux un attachement viscéral. Il s'appelle sans cesse. Quand il appelle pas, elle râle. Quand il appelle trop, elle râle aussi. Enfin, vous voyez, ce genre de père-fille fusionnel. Et donc, quand sa fille est assassinée, il écrit, et donc je l'ai vu sur le mur de sa chambre, « Ma fille, je te vengerai. C'est pas beau la vengeance, mais c'est ça qui me tient. » Et donc, il est persuadé qu'il va trouver lui-même l'assassin et faire l'enquête.
Thomassin, vous l'avez rencontré, vous l'avez accompagné jusqu'à un rendez-vous au palais de justice de Lyon, qui devait être un rendez-vous judiciaire important. Vous lui envoyez 110 euros en mandat par la poste pour qu'il puisse prendre le train depuis Rochefort, parce que, je le disais, il est tout le temps fauché. Et c'est le dernier contact.
Et c'est vrai que cette enquête se poursuit avec de multiples rebondissements. Hein. Donc, à chaque fois que je pense, je me dis, ça y est, ils ont arrêté un acteur, Thomassin, ça doit être lui. En fait, finalement, ça ne se révèle pas lui. Un autre est arrêté. Enfin, c'est sans fin.
C'est un ambulancier aujourd'hui, voilà, qui est mis en examen.
Un ambulancier mis en examen et nie le meurtre. Hein, donc, précisons-le. Donc, Thomassin m'appelle la veille d'une confrontation qui doit déterminer si, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, plusieurs personnes peuvent être complices. Et tous ces gens disent non, on n'est pas complices, on ne se connaît pas, etc. Donc c'est une pure formalité, c'est une confrontation qui finalement est simplement pour boucler le dossier une fois pour toutes. Et il est ravi d'y aller. Alors il est enthousiaste, il dit ça y est, je vais enfin être reconnu innocent. C'est celui qui croit le plus en la justice en réalité. Et donc il m'appelle, me dit voilà, on se retrouve devant le palais de justice de Lyon et n'arrive jamais.
Et depuis ?
Et depuis, il a disparu, donc depuis un an et demi.
Il y a une enquête qui est ouverte.
Une enquête est ouverte et aucun témoin ne s'est encore manifesté.
C'est passionnant et c'est-à-dire c'est il y a quelque chose de Simenon dans votre livre et dans votre écriture aussi. Merci beaucoup Florence Omnas, L'inconnu de la Poste aux éditions de l'Olivier.
Merci à vous Patrick Cohen.
Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis, on est en retard dans un instant le 13h puis la France bouge. Bonne journée.